Le sexe éloigne-t-il les mauvais sorts? La question vous paraît farfelue, et pourtant. À Pompéi, avant l'éruption du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, le sexe s'affiche partout. Des pénis sculptés ornent les rues, des fresques érotiques décorent les demeures les plus respectables, et même les lampes à huile prennent des formes franchement suggestives. Ces représentations ne sont pas considérées comme de simples obscénités. Non, les Romains leur attribuent un véritable pouvoir magique. Le phallus, symbole de fertilité et de puissance, agit comme un porte-bonheur contre le mauvais œil. La logique est diabolique. Quand sur les murs des thermes, un curiste découvre une image érotique, il est censé rire. Et l'hilarité, croit-on à cette époque, génère une énergie positive qui chasse la malchance. Pourquoi dès lors se priver de pénis? Dans les carrefours, on dresse d'imposantes statues phalliques qui indiquent le chemin vers les lupanars, tout en protégeant les passants, deux fonctions pour le prix d'une. Même les bijoux n'échappent pas à cette croyance. Les femmes portent des amulettes phalliques, tandis que les enfants, oui, les enfants, ont des clochettes en forme de sexe masculin pour les protéger des maladies. Mais ne vous y trompez pas. Cette sexualité omniprésente n'est pas si libre qu'elle en a l'air. Dans la Rome antique, le plaisir est strictement codifié par le statut social. Vous ne trouverez pas un citoyen romain qui pratique le cunnilingus. C'est la honte. Lèche-vagin est d'ailleurs l'une des pires insultes de l'époque. Quant aux fresques des lupanars, elles témoignent surtout de la domination des citoyens sur le corps des esclaves. Ces derniers vendent des actes sexuels à prix cassé. Deux pièces pour une fellation, soit l'équivalent d'un sandwich de l'époque. Une rémunération si basse que seuls les plus pauvres acceptent de fournir ces prestations, perpétuant ainsi la hiérarchie sociale jusque dans l'intimité. Voilà, vous dînerez moins bête.